speech sur mon parcours, je vais dire simplement que j'ai passé depuis les années 70 en essentiellement, je suis en psychologie scientifique, j'ai travaillé depuis cette époque-là avec quelqu'un dont on a parlé en mention très souvent ici, Charles Arnagin. Depuis 1974, essentiellement, on travaille ensemble jusqu'à 1985 quand je suis venu en France. Donc dans deux laboratoires, un laboratoire qui était le laboratoire des rêves de Maïmonide à New York, où on a commencé toutes les recherches sur la télépathie en rêve dans les années 60-70, et à Princeton Psychophysical Research Labs, qui était l'autre laboratoire où plusieurs protocoles ont été perfectionnés, notamment de Ganzfeld en télépathie. Donc, moi, aujourd'hui, ce que j'aimerais, c'est assez à propos des différentes interventions jusqu'à maintenant, dans le sens qu'il y a beaucoup de discussions autour de, pour reprendre pour lui, il y avait la discussion comment vendre le paranormal et aussi comment réconcilier quelque part les deux côtés rationalistes ou sceptiques, ceux qui sont plutôt convaincus. Ce que j'aimerais développer, c'est quelque chose de relativement modeste, qui n'est pas aussi de grande envergure de sociologie ou psychologique. C'est plutôt de prendre un domaine spécifique de la recherche parapsychologique et de montrer comment ce domaine de recherche se développe, comment un domaine de recherche s'est construit, et de montrer qu'en fait, c'est une construction tout à fait dans les normes, si je veux dire, de sciences, au moins des sciences jeunes, c'est-à-dire des sciences qui sont en train de se créer, de se définir. Et ce domaine de recherche, c'est un sous-domaine de la psychologie qui est la précognition, c'est-à-dire la capacité apparente des hommes de prédire d'événements futurs sans avoir recours à une inférence logique. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui est basé sur des connaissances existantes et la logique, la rationalité. Donc j'aimerais un petit peu montrer la progression de la recherche et comment la recherche commence à prendre forme et devenir quelque chose qui doit avoir le nom d'une science, si on reste relativement neutre par rapport à ça. Donc, bien sûr, comme dans beaucoup de situations en parapsychologie, ça commence avec des expériences vécues. Une expérience vécue, par exemple, en précognition, un cas qui est cité par Ian Stevenson, par exemple, est d'une femme dont son épouse était à Boston et devait prendre un avion pour aller Il est déjà loin de sa femme. Sa femme l'appelle en lui disant. Donc, sa femme a une prémonition, ce qu'on appelle une prémonition. Et elle a parlé de cette prémonition à une amie en lui disant cet avion va s'écraser. Il faut absolument que mon mari le prenne. Et là, elle commence d'être littéralement malade en étant convaincue que son mari va mourir et qu'il va mourir. Elle est déjà convaincue qu'il va mourir. Et il l'appelle plusieurs fois, elle l'harcèle carrément en disant « Tu ne peux pas prendre cet avion, tu ne peux pas prendre cet avion. » Et lui, il finit par lui le rassurer en disant « Écoute, darling, je ne vais pas le prendre. Comme tu dis, je vais rester ici, je ne vais pas aller à cette business, cette réunion d'affaires. Ok, reste, dors bien, je ne prends pas l'avion. » Lui, il n'avait aucune intention. Bien sûr, il pensait que sa femme déconnait tout simplement. Il avait tout à fait toute intention de prendre son avion. Et ce qui s'est passé, c'est que le groupe qui avait la réunion programmée l'appelle à la dernière minute avant qu'il parte à l'aéroport et lui dit que il ne faut pas venir, la réunion à annuler, à rapporter en fait. Donc il ne prend pas l'avion, effectivement, et cet avion, effectivement, s'écrase, les gens sont morts. Donc, là, c'est un cas, hein, parmi d'autres. Il y a plein de cas spontanés comme cela. Déjà, ce cas nous pose la question, d'abord, est-ce que ça démontre véritablement la prévision, la capacité d'anticiper le futur? Deuxièmement, et plus important, comment résoudre un paradoxe apparent? C'est-à-dire que, bon, dans d'autres cas c'est plus clair, mais ici aussi on doit le voir, comment résoudre ce paradoxe que on voit un événement futur qui va arriver, et en les voyant, on contribue au changement de cet événement, et on falsifie quelque part notre prédiction. C'est-à-dire un paradoxe, parce que normalement, si c'est le destin qu'on voit, c'est-à-dire si c'est simplement plus loin de notre futur un événement, normalement on ne peut pas intervenir pour changer, si c'est vraiment figé. D'un autre côté, on peut aussi dire que, pourquoi pas, les changer. Mais dans ces cas-là, la prédiction est fausse. Donc on a pu avoir la précondition d'un événement futur. Bon, ce sont des cas spontanés. Ce qui est évidemment le grand problème avec l'étude, disons, du terrain, cette sorte d'étude de terrain, est qu'on ne peut pas savoir sur place quelle est la fiabilité de ces cas. Même dans la situation dans laquelle la personne a raconté à quelqu'un d'autre, donc on a le témoignage indépendant, on ne connaît pas la probabilité que cela aurait pu arriver par hasard, du sol. Mis à part toutes les erreurs de souvenirs, les possibilités de tricherie, ainsi de suite. Donc, un premier rapport de situation expérimentale, c'est qu'on commence à définir un univers beaucoup plus restreint, qui est par exemple un jeu de cartes ou qui est un système aléatoire, n'importe. On définit un univers plus restreint dans lequel justement on peut contrôler, ou au moins on peut définir les taux de hasard. On joue avec cela, on voit si la personne peut dépasser ces taux de hasard. Donc les premières choses, ce qui était en fait par J.B. Ryan et d'autres, ce qu'ils ont compris, est qu'il faut avoir des événements futurs dont on ne peut pas avoir une inférence logique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas savoir sur la base d'informations présentes ce qui va se passer. Logiquement, ça induit à un système aléatoire. C'est-à-dire un système qui, par définition, ne peut pas être... on n'a pas un mécanisme pour inférer comment ça va dérouler. Comment on va faire? Oui, ça va un peu loin. Sauf si ça... Donc, dans les expériences, assez tôt, ils ont commencé à construire des systèmes qui permettent un sort de, par exemple, ça c'est avec des dés différentes, ça permet de une sorte de mécaniquement de faire rouler les dés, avoir des résultats qui sont inattendus. Ah, ça c'était avec les cartes. Après, éventuellement, beaucoup plus tard, dans les années 60, il y a eu le développement des systèmes électroniques aléatoires, donc basés soit sur les décompositions de strontium, par exemple, sur les matières radioactives, soit basés sur le bruit électronique et d'autres systèmes aléatoires. Il se trouve qu'après avoir fait des expériences pendant des décennies de cet ordre-là, depuis les années 30 jusqu'à les années à peu près 80, un chercheur a eu l'idée, Charles Arnold notamment, a eu l'idée de faire une méta-analyse là-dessus. Une méta-analyse, simplement pour expliquer très rapidement, c'est de prendre un domaine de recherche bien défini, donc dans ce cas-là, c'est le domaine de recherche de choix forcé, c'est-à-dire des cartes zinaires ou d'autres systèmes aléatoires, et de définir ce domaine qui est le protocole de précondition. On récupère toutes les recherches possibles, c'est-à-dire tout ce qui est rapporté dans les congrès, tout ce qui est publié dans les journaux. On va essayer de les classer et de trouver les caractéristiques de chaque étude, incluant peut-être ses faiblesses au niveau protocole. Et après, on fait une analyse pour voir d'abord s'il y a un effet, globalement. C'est-à-dire, si on considère tout, une trentaine, une cinquantaine d'études comme une seule étude, est-ce qu'on peut considérer qu'il y a un effet démontrable d'une anomalie statistique déjà? Est-ce qu'on peut calculer l'effet, la taille de l'effet, et est-ce qu'on peut voir une corrélation entre la qualité des études et l'effet? Si la qualité des études, des recherches, compte, la qualité est très faible, c'est-à-dire il y a beaucoup d'erreurs de protocole, si là on trouve qu'il y a des effets psy, c'est-à-dire de statistiquement significatifs, on commence à soupçonner que probablement ces effets statistiques sont que dus à ces problèmes de protocole. Si par contre il n'y a aucune corrélation entre la qualité de l'étude et l'effet démontré, ça veut dire que probablement c'est un vrai effet, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est réel. Donc je vous montre un petit peu les résultats. On a ici une 300 expériences qui ont été faites à peu près entre 1935 et 1987, donc une cinquantaine d'années. 60 chercheurs, 50 000 sujets, un score Z, c'est-à-dire le nombre d'écarts types, cumulativement c'est 12. 12, ça représente 10 puissance 25, une chance contre 10 puissance 25, donc beaucoup de zéros derrière. On peut les traiter comme infinis, essentiellement. Donc, il y a certainement un effet. Maintenant, il y a une question, est-ce qu'il y avait une corrélation entre cet effet et la qualité d'étude? La qualité est bien décrite en disant, par exemple, est-ce que le système d'analyse est défini en avance ou est-ce que c'est défini après? Ça, c'est un exemple. Est-ce que les chercheurs ont défini le nombre de sujets qui vont participer en avance ou non? Hein? Différents paramètres de cet ordre-là. Est-ce que le protocole aléatoire, c'est qui va faire jeter les dés, par exemple, est-ce que c'était fait à la main ou est-ce que c'était fait par un appareil mécanique ou par un appareil électronique? Plus c'est électronique ou automatique, plus on considère que c'est une bonne qualité. Si c'est fait à la main, on considère que c'est une mauvaise qualité. Donc, l'étude est pénalisée. Donc, ce qu'on trouve, en fait, est que, contrairement à ce que les sceptiques auraient pu imaginer, les rapports entre qualité et résultat est zéro. La corrélation est strictement zéro. En fait, c'est le contraire. Les études ont légèrement... il y a une relation légèrement positive, c'est-à-dire... Plus les études étaient de qualité supérieure, et plus ils avaient une chance de trouver des résultats positifs. Quand je dis de qualité supérieure, ça veut dire que les contrôles étaient plus stricts, hein? C'était plus rigoureux au niveau méthodologique. Ça ne convient pas du tout à une approche sceptique sur ces données. Maintenant, à part ça, il y a d'autres choses qu'on trouve, parmi lesquelles, c'est qu'on trouve par exemple que les sujets sélectionnés, pas étonnant, ont des meilleurs scores que les sujets non sélectionnés. C'est-à-dire, si j'ouvre la porte et je dis tout le monde qui passe par la rue, je les prends et je les mets devant l'appareil, je leur demande de prédire le futur, probablement ces sujets vont pas avoir des scores terribles. Par contre, si je sais par d'autres tests, par exemple, qu'ils ont au moins un score respectable déjà, et je les invite d'être retestés, là, j'ai une meilleure chance d'avoir de bons résultats. Bon, ça, c'est pas très étonnant. Aussi, ce qu'on trouve, c'est que, par exemple, si les sujets sont testés individuellement, ils ont des meilleurs scores que s'ils ont testé en groupe. Ce qui encore n'est pas très étonnant, parce que souvent, ceux qui ont testé en groupe, on rentrait dans une salle, comme celle-ci, dans une université ou dans une école, et on a testé 50 personnes à la fois. On prenait 10 minutes pour expliquer les tests, les gens disaient « bon, d'accord ». Et l'expérimentateur faisait son test. Donc, au niveau motivation, au niveau rapport humain, etc., nul, zéro. Mais à l'époque, l'approche était relativement mécaniste. On pensait que si c'est un signal qui vient du futur, on doit le rattraper, quelles que soient les conditions psychologiques. Autre chose qui est peut-être un petit peu plus intéressante, c'est que les résultats étaient plus forts, plus le feedback était prêt. C'est-à-dire que si je faisais un essai, admettons que c'est avec un appareil électronique, hein, un générateur aléatoire. Est-ce que tout le monde connaît ce que c'est un générateur aléatoire? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne connaisse pas de quoi je parle? Il fallait qu'il y ait une personne. Donc l'appareil que je montrais tout à l'heure, c'est ça. C'est un système qui est essentiellement un dé électronique ou une pièce électronique. Électroniquement, il donne de façon probabiliste soit pile, soit face. Et c'est impossible de prédire si c'est pile ou face normalement. Donc, on connaît ces appareils. Aujourd'hui, on peut les décrire suffisamment bien pour savoir qu'ils sont réellement aléatoires. Ce n'est pas du pseudo-aléatoire, c'est des systèmes qui sont basés sur des vrais processus aléatoires. Donc, si l'appareil donne pile ou face, et normalement on doit avoir 50-50, on peut s'arranger pour que quand j'appuie sur le bouton, je n'aurai pas l'information si j'ai réussi ou si j'ai échoué qu'une semaine après, ou une heure après, ou 10 secondes après. Je peux faire varier le délai entre le moment que j'ai fait mon choix, pile ou face, et le moment que la machine va me donner l'information, est-ce que j'ai réussi ou non. Ce qu'on trouve très systématiquement dans cette analyse, c'est que plus c'est, si la personne a eu le feedback très rapidement, c'est-à-dire dans quelques secondes, elle a une meilleure chance d'avoir eu une précognition, c'est-à-dire d'avoir des bons résultats. Donc, basé sur cette sorte, donc ça c'était la méta-analyse qui était faite en fin des années 80, donc 87-88, il y avait cette méta-analyse qui a été faite par Van Orten, et qui montre bel et bien qu'il y a un effet, une anomalie, on peut dire, quelque chose qu'on ne comprend pas, et qui est très très étalé, c'est-à-dire ça implique des milliers de personnes, beaucoup de recherches, des chercheurs, beaucoup d'essais, et ainsi de suite. Ce n'est pas quelque chose qui est forcément restreint à quelques voyants, disons. Et ils ont aussi pu dégager un modèle, disons, de comment optimiser cet effet. C'est-à-dire qu'il faut avoir un rapide feedback, il faut sélectionner le sujet, et il faut les tester individuellement. Donc là, prochaine étape dans les discours, dans les démarches scientifiques, c'est de dire, je vais prendre un sujet, au moins, et je vais faire une expérience, au moins, qui fait face à ces critères. Et ils ont choisi le sujet Malcolm Besant, qui est un sujet qui était testé déjà pour la précognition plusieurs fois dans les expériences de rêves télépathiques qui sont ici. Ce n'était pas des rêves télépathiques, c'était un rêve prémonitoire. C'est-à-dire, à Maimonides Hospital, là où je travaillais, on a fait plusieurs expériences avec des rêves télépathiques, mais on a fait aussi des expériences dans lesquelles le sujet dormait la nuit, et la cible, c'est-à-dire ce dont il devait voir dans son rêve, était sélectionné aléatoirement que 24 heures après. Donc lui, dans son rêve, il fallait qu'il voie des éléments par rapport à cette image 24 heures avant qu'on sait quelle sera l'image parmi de dizaines d'images possibles. Donc il était parmi les sujets qui étaient les plus forts à ce niveau-là. Là, c'est un tableau avec quelques résultats. Donc ce qui est intéressant, c'est que les trois premières recherches étaient faites avec en précognition. Vous voyez, précoce. Ils étaient tous les trois significatifs, assez significatifs statistiquement. Quand on a fait la clairvoyance, les deux dernières, les résultats ont été largement inférieurs. Ce qui est intéressant, parce que normalement la clairvoyance est en temps réel, c'est-à-dire que moi je suis là, je ferme les yeux, je m'endors, il y a quelqu'un dans une autre pièce qui est censé transmettre une image, ou il y a une image sélectionnée, et c'est en temps réel. Donc normalement on aurait pensé que c'est plus facile, si on peut accepter qu'il existe le phénomène psychique, normalement on imagine que c'est plus facile de voir quelque chose qui existe déjà, plutôt que quelque chose dans le futur. Mais pour cet individu-là, pour une raison quelconque, il avait des réussites dans les tâches spécifiquement de précognition qui sont a priori plus faciles aussi à faire qu'un protocole. Donc, Charles Arnoten, peu après qu'il a fait cette méta-analyse, moi j'étais déjà parti du laboratoire, il a créé un test parapsychologique sur ordinateur qu'il appelle Espersizer. ESP, Espersizer, c'est un jeu de mots en anglais. Donc, essentiellement, il avait quatre choix. Il y avait une souris, on peut pointer sur un des quatre colons. Et chaque fois, l'ordinateur va générer un jeu de possibilités, là, 1, 2, 3, 4, et le sujet doit sélectionner lesquels il pense l'ordinateur va sélectionner tout de suite après comme la cible. Donc ici, par exemple, admettons que c'est la première, une sorte de trèfle qui est là, qui sera sélectionné par l'ordinateur une seconde après, mais lui, évidemment, il ne le sait pas, et il est libre de choisir lesquels il veut. Donc, à partir du moment que son choix est enregistré, à partir de ce moment-là, le processus de la lecture commence, et un de ces quatre images est sélectionné par l'ordinateur. Donc, ce qui est intéressant, ce qui est très astucieux dans cette expérience, et on voit maintenant un niveau de sophistication intéressant, c'est que Honorton avait introduit une petite manip au niveau de l'ordinateur qui faisait que l'ordinateur choisissait aléatoirement une de deux conditions. Soit la cible, une de ces quatre images, était sélectionnée avant le choix de Besson, soit c'était sélectionné après. Et ni Besson, ni même l'expérimentateur pouvaient savoir lesquelles de ces deux conditions vont être la prochaine. En fait, Besson était même aveugle par rapport à l'existence de ces conditions. Donc, complètement aveugle par rapport si c'est un essai de clairvoyance ou un essai de précognition. Résultat des courses, après un bon nombre d'essais, ça, c'est le résultat avec la précognition. En fait, c'est le résultat de précognition confondu avec la conduite. C'est global. C'était significatif au niveau de 1 sur 100, P.01. Mais ça confond tous les résultats. Ce qui est intéressant, c'est que cet effet ici est strictement dû à la précognition. C'est-à-dire, les résultats de clairvoyance étaient littéralement nuls. Tandis que les résultats de précognition, si tu peux mettre d'autres là, étaient essentiellement identiques à cette courbe-là, sauf plus important, et parce que celle-là confond les deux. Donc, les résultats de précognition sont plus forts que ce qu'on montre ici, donc un P à peu près de 0.0013, inférieur de 0.0013. C'est-à-dire des résultats assez forts au niveau de précognition et pas du tout au niveau de clairvoyance. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que sur la base de l'historique de cet individu, une personne, on a créé une expérience spécifiquement faite pour lui, pour Malcolm Besant, c'est-à-dire on a prédit, parce qu'Anderton avait prédit deux choses, il a prédit qu'il y aura un effet globalement significatif, et il a prédit que l'effet de précognition va être significatif. Statistiquement significativement supérieur à l'effet clairvoyance. Parce que jusqu'à maintenant, apparemment, Besant avait des meilleurs scores en prémonition. Ce qui était confirmé parfaitement avec cette étude. Donc on voit une progressivement, et cette étude d'ailleurs était basée sur le résultat de la méta-analyse avant, qui disait comment on doit procéder pour faire une recherche en parapsychologie sur la prémonition. Donc, là, on a quelque chose qui est intéressant, c'est qu'on dit qu'avec des sujets qui sont, disons, sélectionnés pour quelque chose, pour un don, entre guillemets, on peut obtenir un résultat qui vient de leur, disons, intentionnel, de leur volonté, quelque part. Ils cherchent explicitement à dépasser le hasard et ils arrivent à le faire démontrer avec leur choix, leur décision. Maintenant, la question pour aller plus loin avec cette question, c'est est-ce qu'on peut généraliser ça? Est-ce qu'on peut prendre n'importe qui dans la rue et faire pareil? Bon, la méta-analyse dit non. C'est-à-dire, ce qu'on a fait comme analyse avant dit que probablement, ça ne va pas marcher si facilement. Mais on a une hypothèse que peut-être si les psys sont inconscients, c'est-à-dire peut-être les voyantes ou les gens doués arrivent à rendre quelque chose qui est normalement inconscient, arrive à avoir un certain contrôle. Si c'est le cas, pour la plupart d'entre nous, il y a cet rapport avec la précognition, mais à niveau inconscient. Peut-être ça joue dans ce qu'on appelle l'intuition, par exemple. Et donc, si ça existe, il faut trouver un protocole qui touche, justement, sur les choses inconscientes, sur les décisions qui ne sont pas faites consciemment, mais qui sont faites, quelque part, avec les yeux fermés, inconsciemment. Donc, avec Michel-Ange Amorim, qui était là ce matin, mais qui n'est pas là, malheureusement maintenant, on a créé une expérimentation ici en France. Visage, je vais vous expliquer parce que c'est compacté sur une seule transparent, plusieurs choses. Donc essentiellement, on a quatre écrans. Les quatre écrans à haut, vous voyez, il y a un écran avec des visages, avec pas les profils, mais les contours du visage. À droite, il y a les yeux. En bas, il y a toute la bouche, toutes les bouches, 16 bouches, et après 16 nez différentes. Ça, c'était pris de photokit, vous savez, qu'on utilise par la police pour mélanger des éléments différents, essayer d'identifier quelqu'un disparu ou un criminel. Bon, c'est quelque chose qui est assez courant dans les départements de police, qui en fait, c'était la police, le ministère de l'Intérieur, qui nous a prêté ce jeu de... Donc, on a créé 16 possibilités pour chacun de ces quatre éléments. Et le sujet est censé, il y a deux conditions. Dans une condition, le sujet est censé sélectionner un de ces quatre visages, un de ces 16 visages, un de ces yeux, etc., et composer une image. Par exemple, il a composé l'image à gauche, admettons, en bas. Après avoir composé cette image, l'ordinateur va lui-même faire une sélection aléatoire des yeux, du nez, de la bouche, etc. Et donc, on va comparer maintenant la proximité entre les visages construits par le sujet et les visages construits par l'ordinateur. Évidemment, le sujet est censé essayer de prédire les visages qui vont sortir de l'ordinateur. Donc ça, c'était une condition, c'était la condition volontaire. C'est-à-dire qu'il fallait que le sujet choisisse un par un chacun de ces quatre éléments. Il y avait une autre condition dans laquelle chacun des, par exemple, les yeux défilaient très très rapidement dans une boucle aléatoire, mais extrêmement rapidement sur l'ordinateur, et le sujet ne pouvait faire que arrêter la roulette. Bon, fermer les yeux, faire comme ça. Je l'arrête maintenant avec la souris, et l'ordinateur va faire encore un choix aléatoire, et il s'arrête et il donne les yeux. Pareil pour la bouche, pareil pour les contours et pour les nez. Donc maintenant, le sujet n'avait pas contrôle sur la sélection du visage, c'est-à-dire tout ce qu'il pouvait dire, c'est tant pis, de toute manière, ça part trop vite, je ne peux rien faire, donc je clique quand je descends. Je n'ai pas d'autre choix. Je ne peux pas dire c'est celle-là que je veux et pas celle-là. Et résultat des courses, après tout ça, c'est qu'on avait un résultat statistiquement significatif, globalement. Mais ce qui était plus intéressant, c'était le résultat significatif à un niveau de 1 sur 100 à peu près. Mais ce qui était intéressant, c'était que tous les résultats étaient dus à la deuxième condition, c'est-à-dire la condition dans laquelle le sujet ne pouvait pas choisir consciemment. Et en faisant une analyse plus loin, on a vu qu'en fait, quand le sujet sélectionnait consciemment le nez, la bouche, etc., il avait une forte tendance, parmi les 40 sujets qui étaient testés, de choisir les mêmes bouches, les mêmes yeux. Au lieu d'avoir, c'est-à-dire, une palette large dans laquelle on choisit librement, ils avaient tendance de choisir les choses qui leur faisaient plaisir, ou les choses qui leur paraissaient les plus bizarres, les plus intéressantes. C'est-à-dire qu'ils avaient très mal à se focaliser sur l'événement futur parce qu'il y avait tellement de prédispositions psychologiques en eux qu'ils biaisaient vers une direction plutôt vers une autre. Ce qui est très intéressant parce que ça veut dire que si on a du mal, nous, consciemment, à voir le futur, si on n'est pas entraîné, si on n'est pas doué, entre guillemets, c'est peut-être parce qu'on a tellement, quelque part, les cerveaux fonctionnent tellement, on est tellement conditionné par notre passé qu'on a une tendance de projeter notre passé vers le futur plutôt que de prendre cette optique table rase, en quelque sorte, et de laisser l'information venir vers nous. Donc, une étape plus loin dans cette logique, faite par un chercheur très brillant aux États-Unis qui s'appelle Dean Radin, qui a sorti un livre aux États-Unis, qui est un très très bon livre qui va sortir très bientôt en français aussi. Il a poussé plus loin cette logique en disant, si en fait la précognition c'est un phénomène inconscient, est-ce qu'on ne pourrait pas simplement sans, en dépassant complètement les comportements du sujet, en dépassant complètement ses paroles, s'est branché directement sur son corps, donc un petit peu sur les bras, sur les mains, et voir s'il a des signaux faibles, et s'il a des petits signaux qui prévient qu'il y a un événement qui va venir, même si la personne consciemment n'a aucune idée. Donc, comment il a fait ça? Je décris un petit peu l'expérience. D'abord, il faut dire, j'ai fait une petite introduction, cette expérience est déclenchée parce qu'il y avait un chercheur suédois qui faisait des expériences sur les couleurs et les mots. Complètement en dehors de la parapsychologie, c'est une expérience de psychologie sur un phénomène qui s'appelle priming en anglais, qui est la préparation inconsciente. Et dans cet effet, on voit que si par exemple je flash les noms d'une couleur, par exemple vert, et après je demande à la personne, dès qu'il voit une couleur après, de la nommer tout de suite. Et si je flash maintenant la couleur verte, la personne va très rapidement dire vert. Si par contre les mots verts étaient là, et après je flash rouge, et la personne va avoir une confusion, va une hésitation, une réticence, et va dire rouge. Et on voit que les temps de réaction est beaucoup plus important. On voit c'est-à-dire qu'il y a une sorte de conflit qui était créé par les mots, et ce conflit était transporté, rapporté à son choix ultérieur. Rien d'anormal là, ça c'est simplement quelque part le fait qu'il y a une interférence entre deux modalités de pensée et la préparation d'une avec l'autre. Mais ce qui s'est passé, c'est que ce chercheur a compris quelque chose d'intéressant. Il dit, pourquoi pas demander à la personne aussi de dire les mots, quand il voit les mots verts, de les dire verts. Et après, comme ça on va voir son ton de réaction aussi qu'on demande de voir tout simplement quel est son temps de réaction sans penser à cette interférence. Donc, ce qu'il a fait, il a mesuré le temps de réaction de la personne par rapport au mot, mais ce qu'il ne pouvait pas comprendre, c'était que parfois les gens avaient une sorte d'interférence bizarre, c'est-à-dire ils disaient parfois les mots verts plus lentement quand ce qui suivait était rouge. C'est-à-dire, les mots verts apparaissent, et si ce qui suit c'est vert, ils les disent très rapidement. Si ce qui suit était rouge, ils hésitaient. Statistiquement, de façon statistiquement significative. Donc il a dit, mais qu'est-ce que c'est cette histoire? C'est pas possible parce que le rouge ou vert choisi après est complètement aléatoire. Donc normalement, mais c'est après. Comment le sujet sait en avance, inconsciemment, quelque chose qui va être choisi 10 secondes après? Donc il a fait une série d'expériences, il a constaté qu'effectivement les gens, il avait une sorte d'interférence à la base de l'expérience suivante. Donc Dean Radin a pris ça, il a dit ça c'est très intéressant, il a branché des capteurs physiologiques sur l'individu, notamment pression sanguine, la tension artérielle et la conductivité de la peau. Et il a eu deux conditions. Donc, il a des images qui sont soit choquantes, soit des images neutres. Donc, quand je dis choquantes, ça peut être des images carrément une opération avec tous les tripes qui sont dehors, enfin, des images de guerre très fortes, des images sexuelles aussi, oui, mais sexe, mais très explicite. Les genres de choses qui passent mieux en Hollande qu'aux États-Unis. Il a pu le faire. Il a mélangé ces images et, bien sûr, le tenteur choisit aléatoirement lesquelles va venir. Maintenant, on sait très bien, si vous regardez cette image-là, on sait très bien par la psychologie expérimentale classique que quand quelqu'un voit une image, ça lui prend une ou deux secondes et après, soit il reste calme, soit il est choqué. Et il est choqué et on les voit au niveau des capteurs physiologiques qui tout d'un coup, par exemple, la conductivité de la peau monte, c'est-à-dire les glandes commencent on commence à avoir de la sueur en fait sur les mains. On commence à être excité, stimulé ou être dans un état de peur ou de, enfin, c'est un petit peu, c'est ça, le choc émotionnel qui est enregistré sur le capteur physiologique. C'est ça la base de ce qu'on appelle des détecteurs de mensonges. quand on est dans le public tendu, la peau, la connectivité, la peau monte. Donc on sait très bien qu'il y a cette pattern qui tout d'un coup, tout roule bien, et après, de façon abrupte, il y a cette montée quand l'image vue est choquante. Ce qui a constaté Lynn Radin, c'était que avant que l'image choquante apparaisse, il avait cette courbe que vous voyez. Donc, les cibles qu'ils appellent emotional, donc très affectivement très chargées, ont commencé à monter bien avant l'apparition de l'image ici. Donc, et tandis que quand l'image qui va venir, qui va être exposée, est neutre, il n'y avait pas cette réaction et ça reste cohérent avec ce qui se passe après. Au niveau physiologique, en d'autres termes, on a trouvé un sort de miroir. Ce qui se passe après, si le temps, si on dit que le temps zéro est ici, on voit qu'ici l'image est projetée. On voit que juste avant, et il n'y a aucune manière physique pour la personne de savoir qu'est-ce qui va se passer avant. Avant, quelque part, cette personne avait connaissance de ce qui va apparaître dans ses yeux. Donc ces expériences étaient faites et par Radin, et après, très récemment, étaient reproduites aussi par au chaire de parapsychologie en Hollande, par Dick Biermann. Ce qui est très intéressant parce qu'on parle de reproductibilité. Actuellement, parmi les expériences les plus reproductibles, en fait, c'est toutes les expériences qui tournent autour de la physiologie de l'individu, dans lesquelles on contourne complètement les réponses conscientes, volontaires, et on cherche à comprendre ce qui se passe au niveau du corps sans aucune réflexion consciente. La personne n'a aucune idée. Si on lui demande, elle peut pas, elle va pas avoir de réussite significative ici. Ce qui était déjà essayé. Donc, on a un raffinement du processus méthodologique qui montre une progression. Une progression, on est en train de construire un champ de recherche. On passe d'un constat général qui est sur le terrain, on voit qu'il y a des anomalies, c'est-à-dire il y a des gens qui apparemment disent avoir eu des expériences précognitives. Ça nous semble très bizarre parce que quand même le temps comment ça se passe, parce que normalement on pense que le temps roule dans un sens seulement, d'hier vers demain. Néanmoins, on commence à introduire des méthodologies et des appareillages pour mesurer cet aspect, et il y a un raffinement progressif au niveau de méthodologie jusqu'à un moment dans lequel il y a un sort de mise au point, on dit, bon, où est-ce qu'on est, et ça c'est dans les années 80, 90, on dit, qu'est-ce qu'on sait maintenant? Et la première chose qu'on peut constater, c'est qu'il y a des effets réels, c'est-à-dire qu'ils peuvent être constatés par plusieurs chercheurs, par plusieurs laboratoires, ainsi de suite, et on dégage un modèle pour les psychonscientes. On les teste avec un sujet, et sur deux conditions, c'est confirmé, et on dégage un deuxième modèle qui est, est-ce que les gens plus, disons, normaux, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de dons, plus habituellement, est-ce qu'eux aussi, peut-être, auraient quelque chose qu'on peut démontrer scientifiquement malgré le fait que consciemment ils n'ont rien. Et on arrive à voir que en fait, les corps ou l'inconscient, si vous voulez, a une connaissance des choses même si on n'accède pas à cette connaissance. Et ce qui est intéressant, ce n'est pas seulement qu'on peut spéculer par rapport à ça. Peut-être Freud avait déjà pensé à ça dans le 19e siècle. Peut-être Jung aussi avec sa synchronicité. Mais ce qui est intéressant, c'est que tout en jouant le jeu de la science, tout en restant dans le cadre de la science, c'est-à-dire avec des méthodologies acceptables, qu'on peut démontrer ces phénomènes dans une situation bien définie qui est le laboratoire. Donc, ce qu'il faut ajouter peut-être, c'est que la précognition est spécialement intéressante pour toutes sortes de questions. Parce que, une des raisons est parce que, en principe, on peut expliquer d'autres phénomènes parapsychologiques, comme la télépathie ou la clairvoyance, par la précognition. C'est-à-dire, paradoxalement, le phénomène le plus difficile à comprendre est peut-être, finalement, celui qui va expliquer les autres phénomènes. Je ne veux pas tenir à cette hypothèse, mais je dis, qu'il a cette possibilité. Par exemple, quand on fait une expérience télépathie, on imagine qu'il y a quelque chose qui part de mon cerveau ici, qui traverse la pièce et qui va se retrouver dans le cerveau plus loin. Et malgré toutes nos recherches, on n'a jamais trouvé ce déplacement dans l'espace. Et au contraire, on trouve de moins en moins d'indices qui soutiennent cette hypothèse. C'est-à-dire la distance ne semble pas avoir un effet, les barrières ne semblent pas faire une différence, et ainsi de suite. Maintenant, il y a une autre hypothèse qui est que celui qui reçoit apparemment l'information de l'autre n'est pas en train de recevoir l'information de l'autre, mais il est en train de recevoir l'information d'un état futur, c'est-à-dire l'état dans lequel il va observer les résultats de la séance, de la session de télépathie. Il va les observer et il va dire « Ah, c'était ça la cible !» Et cette information peut-être circule inversement dans le temps vers les moments zéro, dans lesquels il dit « C'est cette cible, pas cette cible-là. » Et c'est à la base de cette précognition qu'il a l'information plutôt qu'à la base d'une information qui est transmise à travers l'espace. La même chose pour la clairvoyance. Je peux faire, par exemple, apparaître une image dans un espace, dans une pièce en Russie, actuellement, en Russie. J'ai l'image là, et moi je suis voyante, ou je ne sais pas, médium, n'importe, ici, et je le décris parfaitement, très bien. Il semble que je le décris parfaitement. Et on dit, et pourtant il n'y avait pas un émetteur là-bas, comment c'est possible? Et il faut imaginer quoi? Que l'image a transmis son contenu à notre cerveau, ou qu'on a traversé l'espace avec notre esprit pour aller chercher l'image. Ce sont des hypothèses, mais il y a une autre hypothèse aussi, c'est que tôt ou tard, ce sujet-là va avoir une certaine information par rapport à cette image. Sinon, ce n'est pas une expérimentation scientifique. C'est-à-dire qu'il faut avoir à un moment donné qu'il y a un feedback à quelqu'un qui est lié à la proposition de ce qui était dans cette image. Donc, à partir du moment qu'il y aura ce feedback, 2 heures après, par exemple, 2 jours après, ça peut être un repère dans le futur pour la personne pour tirer l'information de ces moments futurs. Donc la précognition est très intéressante, un modèle explicatif, même en parlant de la psychokinèse, de la micro-psychokinèse, c'est-à-dire ce dont René Péoc parlait ce matin, ce qu'on représentait comme la psychokinèse, on peut également le représenter comme la cognition. Et ça reste toujours, bien sûr, comme l'autre chose problématique, on n'est pas sûr si c'est l'un ou l'autre. Si vous voulez, je peux élaborer, je peux laisser un peu de temps pour des questions. Mais ce que je veux dire, c'est la précognition. Il y a une chose qui est sûre, que ça existe. C'est peut-être le phénomène parapsychologique le plus solidement démontré actuellement. Et l'autre chose qui est une hypothèse, c'est que ça peut être les phénomènes parapsychologiques, les seules anomalies, quelque part, qu'il y a à expliquer dans l'univers de la parapsychologie. Voilà, je laisse un peu de temps pour les questions. Ah, si vous n'avez pas posé de questions, après tous ces efforts de me limiter. Est-ce que, si j'ai bien compris la question, c'est qu'est-ce qu'on fait au niveau d'application? Est-ce qu'on peut faire imaginer une machine à précognition, par exemple, pour prédire le futur? Mais bon, ça c'est une question plus générale pour la parapsychologie. Qu'est-ce qu'on fait avec tout ce qui est dans la parapsychologie, hein? Parce que, c'est sûr. Mais, bon, c'est une question générale qui compare la recherche fondamentale et la recherche appliquée. Là, on peut dire qu'à ce niveau-là, on est en parapsychologie, on doit être au niveau fondamental, c'est-à-dire on cherche à comprendre les phénomènes. Maintenant, peut-être ça ne suffit pas, peut-être on veut des applications. Je peux imaginer tout de suite une application, c'est que moi, si j'avais un système qui peut me dire s'il faut ou non prendre un avion, ou si oui ou non il faut prendre un train, ou si ou non il faut sortir sur l'autoroute, ça serait vachement intéressant pour moi. Si j'avais un système, c'est-à-dire qui commence et mon bras droit commence à trembler parce que le moment que je commence à mettre les clés dans la voiture, je penserai deux, trois fois de plus. Donc ça, c'est une application idéale. Une autre application, c'est que les gens dans les affaires qui se considèrent comme des gens très intuitifs et très réussites, on parle beaucoup de l'intuition actuellement aux États-Unis et affaires, intuition et affaires, il est très possible, voire probable, que ces gens, ces PDG, ces cadres supérieurs ont certains dons précognitifs. C'est-à-dire que le fait qu'ils arrivent à avoir des intuitions, malgré tout indice logique, qu'ils vont investir dans quelque chose, ils vont prendre un certain axe, comme ça, sur un pari, qu'ils disent, non, je ne sais pas, ça m'attire, je sais que tous mes conseillers, tous mes associés disent que c'est de la folie, mais moi je le sens, je parie là-dessus. Ça, il y a des histoires, il y a des success stories sans arrêt autour de ça. Si c'est le cas, et je pense que c'est le cas, il n'y a pas eu pas mal d'études autour de ça, il est très possible que la prédiction joue un rôle là-dessus. Et ce n'est pas simplement l'expérience du passé qui les aide à faire ça. Donc, si c'est le cas, on a peut-être des systèmes pédagogiques qui peuvent faire les gens apprendre de faire de meilleures décisions. C'est-à-dire qu'il faut penser que toute notre vie tourne autour de prise de décision. On est sans arrêt en train de prendre des décisions. On pense que la prise de décision est basée sur quoi? Sur notre expérience, on pense que c'est basé sur les indices du présent, sur les choses raisonnables. Mais si la prise de décision aussi pourrait être basée sur un tout petit peu d'information qui vient du futur ou sur une voie qui est plus probable, plus intéressante. Pour vous dire vrai, je pense que les applications sont énormes. J'ai presque peur de penser aux applications. Je préfère presque de penser pour l'instant à la recherche et simplement à nos connaissances plutôt que de penser très rapidement aux applications parce qu'on a vu avec, par exemple, le Defense Intelligence Agency et le CIA, on a vu que tout de suite, évidemment, les applications vont partir dans le sens espionnage, dans le sens... dans toutes les applications militaires, machin. Donc, je ne suis pas sûr qu'il faut avoir trop de soucis de l'application trop rapidement. Essayons d'abord de voir un petit peu de où on met le pied, ou sinon, il faut les garder à un niveau très, très, très modeste, ou de laisser les sectes s'en occuper. Mais moi, je ne suis pas pour les sectes. Hein. Donc, je préfère une recherche modeste, mais démocratique, hein, dans ce sens-là. Oui, c'était one tail. Tout était one tail.
Donc le psilocybe n'a pas été pris en compte.
Non, parce qu'il avait un passé, il avait spécifiquement dans son cas, il avait une historique qui était tellement frappante au niveau de sa hitting. Et en plus, c'était quelqu'un qui était employé par des entreprises qui dans le recrutement, il demandait à Besson, il leur donnait en photo, il demandait de donner sur ses impressions par rapport à cet individu. Et il paraît que Besson avait une tellement réussite qu'il vivait essentiellement de ça, mais c'était quelqu'un, c'était pas du tout de ce genre Uri Geller, Ingo Swann, c'était pas un prima donna, il était très 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 modeste, il était quelqu'un qui est très coopératif avec les chercheurs. Lui, il pensait qu'il avait un don temps réel. Donc ça, c'est encore une chose intéressante, c'est là, on a testé. Lui, il pensait qu'il avait un don temps réel, également que prémonition. Mais toutes les données expérimentales montraient l'inverse, qu'il avait, ce qui veut dire que ce n'est pas seulement nos a priori qui définissent tout, qu'il y a quelque chose qui nous dépasse, quelque part aussi, même avec des gens doués comme ça. Oui, il y a une question.
Oui. Moi, je pose une question théorique par rapport à la possibilité d'expliquer tous les phénomènes psy, enfin les principaux, hein, c'est-à-dire psychokinèse,
micro-psychokinèse,
clairvoyance, télépathie, à travers un seul phénomène qui serait ici la précognition. je pense qu'on peut se demander si c'est une démarche qui est intéressante au niveau de la recherche. Parce que finalement, on a parlé beaucoup de la controverse sur le phénomène psy. La controverse, elle est catalysée en fait par une logique qui est soit oui, soit non. Ça existe ou ça n'existe pas. C'est en accord avec la science officielle ou ça ne l'est pas. Et tout s'est focalisé. On voit que tous les critiques de la parapsychologie sont des gens qui se rapportent à la physique du 19e, jamais à la physique quantique. Mais si on va dans le sens de... Alors, on a vu plusieurs personnes proposer un phénomène. Par exemple, du Arsiamède pense que tout est télépathie. D'autres personnes pensent que tout est précognition, etc. Très que souvent, les chercheurs ont tendance à dire, voilà, il y a un phénomène, on peut tout expliquer avec ça. Mais est-ce que c'est vraiment intéressant? On est là en face d'une énorme quantité de phénomènes. Donc on a réussi à répertorier quatre principaux pour les motifs de la recherche de laboratoire. Et ça, c'est bien pratique et très très important pour être sérieux. Et en fait, même à travers ces quatre phénomènes, on s'aperçoit qu'il y a un maximum de mécanismes qui sont complètement aberrants et impossibles à expliquer, sauf par la mécanique quantique, ou par la théorie du chaos, ou par des théories, par une science tout à fait nouvelle. Et certains échappent complètement même aux théories les plus nouvelles. Donc, plus on essaie d'imaginer qu'il peut y avoir différentes sortes de processus qui peuvent avoir des explications différentes et qui ne sont pas, par exemple, si on trouve quelque chose qui est indépendant du temps, on peut trouver aussi quelque chose qui est indépendant de l'espace sans tout ramener, par exemple, oui, à la précognition. Et peut-être que ça, c'est beaucoup plus intéressant, peut-être qu'il y a, oui, plusieurs phénomènes.
D'accord, donc ta question était une affirmation en fait. Donc, oui, je suis d'accord. Ça, c'est une position. Moi aussi, je ne vais pas affirmer la position réductrice, quelque part, complètement. Je dis simplement que ce n'est pas autant pour faire un choix comme entre sceptiques. Ce n'est pas exactement la même chose. C'est plutôt dans le sens de spécialisation. C'est-à-dire qu'on pousse plus loin une hypothèse particulière. Par exemple, l'hypothèse que tout peut être expliqué par la prévention, c'est une hypothèse, quelque part, qui est plus précise que le fait qu'il y a quatre phénomènes dont on voit sans arrêt que, vu d'une manière, une télépathie peut être expliquée autrement. Par exemple, la télépathie peut être expliquée par clairvoyance. C'est une des raisons pour lesquelles on a toujours cherché une expérience télépathie pure, on n'a jamais pu faire. Ça, c'est un gros problème. La précognition, contrairement aux autres, c'est très difficile à les réduire à d'autres choses, sauf peut-être à une psychokinèse, c'est-à-dire qu'on crée l'événement qu'on prédit. Donc on a une... c'est vrai qu'il y a une motivation dans la science qui est tacite, et que ça c'est transversal, qui s'appelle la parcimonie, c'est-à-dire l'économie d'hypothèses. Et on cherche sans arrêt de trouver l'hypothèse la plus élégante dans le sens que la plus économique, qui va expliquer le maximum de phénomènes, sans trop de choses ajoutées. Dans cet intérêt-là, parfois, on cherche à dire peut-être cette hypothèse peut expliquer les autres, ces phénomènes. Maintenant, est-ce que c'est intéressant ou non? Ça dépend de quel côté. Si c'est une hypothèse que, dans son application, dans la recherche, va tuer d'autres champs de recherche, je considère complètement inintéressante. Parce que c'est trop prématuré pour faire cela. Par contre, si c'est une façon de pousser une voie de recherche plus loin et de dire, voilà, essayons de tester à fond ces concepts de précognition inconsciente, de prémonition, essayons de poser au fond les paramètres qui... Parce que la précognition est très facile à tester. Ça, oui, c'est intéressant, parce que quelqu'un qui est convaincu par rapport à ça va avoir une énergie additionnelle quand il dit, tiens, je commence à avoir une précision par rapport au phénomène. Je commence à mieux comprendre, même si c'est sa croyance, même si cette énergie-là aide le chercheur d'aller plus loin, ça le motive.
Et quand je posais la question qui était, est-ce que c'est vraiment intéressant pour la parapsychologie et la recherche, c'était parce que si quelqu'un pense que tout est précognition, toutes ces expérimentations qu'il va imaginer vont être uniquement dans le sens de montrer l'aspect, la possibilité de la situation précognitive dans le phénomène.
Oui, mais il y aura d'autres. Oui, mais il y aura d'autres chercheurs qui vont les contredire, qui vont essayer de montrer que ce n'est pas connaissant. Donc, c'est normal. Ça, c'est le processus normal de la recherche. Ce n'est pas la controverse dans le sens sceptique, non sceptique, c'est plutôt l'aspect hegelien, quelque part, l'aspect de, pas de conflit, mais d'essayer par, en mettant deux hypothèses l'un contre l'autre, de voir quelle la bonne voie. Ça, c'est normal. Ce qui n'est pas normal, c'est de le faire de façon, chauviniste, quelque part. Impérialiste, je ne sais pas comment. En anglais, on dit chauviniste. Que c'est très, on dit que c'est la seule voie et tout le reste n'est pas pertinent.
On va peut-être pouvoir passer à...